Comment la neuropsychanalyse peut-elle nous aider à comprendre l'intelligence artificielle? Tous les jours, nous sommes en contact avec l'intelligence artificielle, modelée en grande partie sur la conscience humaine. Et cela nous donne un aperçu de ce que nous savons de nous-mêmes, mais aussi de ce que nous ne savons peut-être pas. Aujourd'hui, nous développons notre sens de nous-mêmes et des autres, à la fois dans le monde virtuel et dans le monde réel. L'intelligence artificielle n'est donc pas seulement calquée sur la conscience humaine, elle a également un impact sur notre développement. Dans cet épisode, Rosa Spagnolo parle de la conscience, de l'intelligence artificielle et du développement d'une intelligence artificielle super intelligente. Elle examine ce que cela implique pour le développement de l'homme et de l'intelligence artificielle dans les identifications, la subjectivité et la souffrance en s'appuyant sur la compréhension neuropsychanalytique de l'esprit. Rosa Spagnolo est neuropsychiatre pour enfants, psychothérapeute de développement et psychanalyste membre de la Société italienne de psychanalyse et de l'API. Elle est coprésidente et cofondatrice de l'Association italienne des dialogues psychanalytiques. Elle est membre coordinatrice régionale et présidente du groupe italien de la Société internationale de neuropsychanalyse. Elle enseigne dans plusieurs institutions et est une oratrice recherchée lors des conférences nationales et internationales. Elle a écrit plusieurs livres et articles sur une variété de sujets, y compris les troubles alimentaires, la psychothérapie analytique du groupe, la neuropsychanalyse et les troubles neuropsychiatriques du développement. Elle a été nominée pour le prix Gradiva en 2019. Je suis Monica d'Alençon avec Talks on Psychoanalysis, le podcast de l'Association psychanalytique internationale consacré aux sujets publiés dans les revues de l'API et aux débats et congrès dans le monde entier avec les voix originales des auteurs. Cette série de podcasts publiés par l'Association psychanalytique internationale est une des activités du comité de communication de l'API et est produite par l'équipe éditoriale des podcasts de l'API, dirigée par Gaetano Pellegrini. L'édition et la post-production sont gérées par Massimiliano Guerrieri. Pour rester informé des dernières parutions des podcasts, inscrivez-vous dès aujourd'hui.
Intelligence artificielle et psychanalyse à la rencontre du futur. L'avènement des systèmes d'intelligence artificielle différents des biotypes connus jusqu'à présent a ouvert un vaste front de débat qui implique toutes les communautés scientifiques. Les questions soulevées concernent à la fois leur utilisation et leur évolution dans le sens de la formation d'agents dotés d'un esprit intelligente. C'est une rencontre avec l'avenir que nous essaierons d'approcher pour mieux le connaître. Ce podcast sera divisé en trois parties. Une première partie concerne la relation avec la réalité virtuelle. Une deuxième partie résume le système de l'intelligence artificielle. Dans la troisième partie, nous examinerons les questions proposées par la communauté scientifique sur la conscience artificielle. Première partie. Quelle identification au cyberspace? La comparaison avec les générations nées après les années 80 passe par la révolution numérique qui a introduit de nouvelles formes de communication et d'apprentissage, autrement impensables pour les générations précédentes. Ces nouvelles réalités virtuelles permettent une interaction simultanée avec de nombreux autres sujets et à l'absence totale des limites que le corps impose à l'incarnation. La multiplicité relationnelle du online, qui a de fortes répercussions sur la vie offline également, nous oblige à repenser la signification du terme identification dans la relation redessinée et redéfinie par l'espace virtuel. Pour les natifs du numérique, qui ont grandi dès leur plus jeune âge parmi les téléphones portables, les jouets robotisés et les jeux vidéo commandés uniquement par des signaux iconiques, c'est-à-dire utilisables même savoir lire, le monde virtuel ne peut pas être considéré comme quelque chose de parallèle à la réalité de son objet et qui se tient à côté de la réalité matérielle et multiplie donc les soirs réels, les objets réels, dans une dimension autre que la réalité matérielle. Pour les natifs du numérique, la virtualité est ancrée dans la vie quotidienne. Elle en fait partie en tant qu'extension du soi au monde dans une co-construction mutuelle et constante. Les relations établies dans et à travers les cyberspaces font donc partie de leur processus spontané d'identification entre soi et le monde, dont la virtualité est l'une des nombreuses caractéristiques de l'interaction. Les natifs du numérique sont des individus qui peuvent facilement tirer parti de la virtualité et s'y référer comme s'il s'agissait d'un objet concret. Dans ce sens de réel virtuel, la frontière entre le soi et l'autre s'élargit pour inclure le monde. Les frontières entre le soi, l'autre et le monde ne sont pas toujours faciles à distinguer. Le soi immergé dans cette réalité matérielle, virtuelle, mixte, il en est imprégné et forgé en permanence, étant soi autre, étant Dieu, avec une fenêtre toujours ouverte, always on, sur le monde, sur la communauté. Grâce à l'utilisation constante de la technologie qui accélère toutes les étapes pour atteindre l'autre, l'individu est public, facilement identifiable par un ou plusieurs idées. Grâce à nos idées, nous sommes à la fois virtuels et matériels, mais nous sommes déjà immergés dans l'IA à laquelle nous fournissons des données que nous actualisons en permanence grâce à l'utilisation de la technologie. Si cette exposition publique continue rend obsolète les notions de vie privée et d'authenticité, quel chemin l'identification emprunte-t-elle dans la construction de sa subjectivité? Le lien constant avec l'autre, réitéré et vivifié par le always on, les nombreux contacts qui forment une résonance de relations horizontales, l'imbrication autour d'innombrables profils, d'une infinité de récits possibles, tout cela crée de nouveaux liens identificatoires qui font l'objet de nouvelles réflexions pour les analystes que nous sommes. L'utilisation massive de l'Internet, tant en termes de communication, plateformes de Zoom, Skype, Google Meet, qui d'échanges via les social networks, l'IA ou le métavers, nous oblige à réexaminer les concepts d'intérieur-extérieur, de présence-absence, de sujet-objet, mais surtout celui des singularités-multiplicités. La virtualité est donc de plus en plus configurée comme une histoire écrite à plusieurs mains, dans laquelle le brouillage des frontières entre la vie réelle et la réalité virtuelle continue d'amplifier notre potentiel de contrôle du soi, de l'autre, du monde, en amenuisant ses frontières, mais surtout en érodant sa subjectivité. Deuxième partie, à quoi sommes-nous confrontés? Une prémisse terminologique. Intelligence artificielle, agent artificiel, réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte sont des termes différents qui indiquent tout de différentes manières le développement d'agents numériques dans des contextes sociaux. Il s'agit de technologies qui améliorent le contrôle du contexte de l'environnement ou qui sont capables de stimuler les différents sens humains, permettant ainsi une perception appelée « sens de l'immersion ». La technologie immersive est définie comme suit. Technologie qui brouille la frontière entre le monde physique, virtuel et simulé, créant un sentiment d'immersion. Pour qu'un véritable métavers puisse émerger, les innovations futures dans les domaines de l'apprentissage automatique, donc dans le développement de l'IA et de l'analyse des données, seront cruciales. Actuellement, tout en combinant IA, XR et en développant des réalités virtuelles immersives, toujours proche de l'esprit humain, les premières n'ont pas la complexité des secondes. Capacité symbolique représentative, réponse stochastique, interaction multiple aléatoire, complexité émotionnelle. Et donc, la réalité immersive proposée risque de générer des simplifications symboliques et d'approuvir la complexité de la psyché humaine en les réduisant à une simple opération computationnelle. Les neurosciences jouent un rôle clé dans le développement et la conception de l'IA et tentent de dépasser le fonctionnalisme computationnel. Cette recherche concerne à la fois la conception des systèmes d'intelligence artificielle qui émulent l'intelligence humaine et la construction des circuits neuronaux artificiels qui nous aident à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? L'IA est une intelligence affichée par une machine qui simule le comportement ou la pensée humaine. Elle est entraînée et, en combinant les techniques d'apprentissage automatique et d'apprentissage profond, elle peut être entraînée à résoudre des problèmes spécifiques. Généralement, divers modèles d'intelligence artificielle sont formés à l'aide d'un grand volume de données et, en fonction du modèle, de l'algorithme et de la formation utilisée, ont la capacité de prendre des décisions. Le développement des systèmes d'intelligence artificielle a réuni les neurosciences et diverses disciplines d'ingénierie, produisant la révolution actuelle de l'intelligence artificielle moderne basée sur la conception de la construction des circuits neuronaux profonde, c'est-à-dire des systèmes de traitement avec des neurones artificiels individuels connectés dans un réseau hiérarchique et distribués à travers des tâches d'entraînement dirigées vers un objectif. Le domaine de l'IA cherche également à comprendre comment l'information est traitée dans les systèmes neuronaux artificiels pour produire un esprit. Mais qu'est-ce que l'intelligence artificielle et comment fonctionne-t-elle? Même sans être consciente et sans entrer dans les détails techniques, nous interagissons quotidiennement avec l'intelligence artificielle, des smartphones aux chatbots, de la télévision interactive aux recherches de données, du gamin aux jeux vidéo. L'intelligence artificielle est déjà présente dans de nombreux aspects de notre vie. Par exemple, nous utilisons quotidiennement des machines dites réactives qui n'ont pas la capacité de former des mémoires ou d'utiliser des expériences passées pour prendre des décisions. Ces machines sont conçues pour effectuer des tâches spécifiques. Certaines d'entre elles sont équipées de puces à faible mémoire et peuvent utiliser cette mémoire pour répéter un programme sans créer de nouvelles idées. Amazon Echo ou Siri est la plus simple des IA actuellement sur le marché. Amazon Echo est un haut-parleur intelligent qui utilise Alexa, l'assistante virtuelle dotée d'une IA développée par Amazon. Amazon Alexa est capable d'interagir vocalement, de jouer de la musique, de régler le réveil, de lire des livres audio et de fournir des informations en temps réel, telles que les actualités, la météo, le sport et la circulation. Les données qu'il recueille ne sont pas directement accessibles à l'utilisateur en tant que mémoire personnelle étendue, mais s'agissent comme un collecteur de données pour mettre en œuvre le système et rendre ces nouvelles données disponibles dans des mises à jour continues. Interagir avec une machine parlante n'est donc pas la même chose qu'être en présence d'un être intelligent. Les machines, les agents d'IA qui suscitent la perplexité dans leur utilisation et leur développement ultérieur sont ceux qui sont interactifs, qui utilisent le langage verbal ou d'autres langages codés pour simuler l'expérience humaine, mis en œuvre par la capacité d'apprentissage associatif illimitée. En particulier, des IA suscitent une large réflexion dans le monde scientifique et politique. Celles dotées d'une théorie de l'esprit et celles dotées d'une conscience Dieu soi. Les premières peuvent reconnaître les autres, se socialiser, comprendre les émotions humaines, se déplacer dans différentes conditions environnementales. Leur degré d'autonomie fait l'objet d'études. Les secondes, ceux qui sont dotés de la conscience de soi, animent le débat scientifique. Quelle est l'unité minimale agency dotée de ce type de conscience et quelle est l'évolution de la relation entre les machines d'IA et l'humanité? Ces machines super intelligentes, éventuellement sentientes et conscientes, capables de réagir très exactement comme un être humain, sont les machines d'un avenir pas si lointain. Les machines actuelles, machine learning et deep learning, ont déjà la capacité d'apprendre, la première utilisant des algorithmes pour générer des informations à partir des données auxquelles elles possèdent. La seconde a la capacité d'imiter le réseau neuronal du cerveau humain. Les machines super intelligentes, peut-être sentientes, peut-être dotées d'inconscience, posent des questions éthiques pertinentes à la communauté. Troisième partie. L'IA et l'esprit humain. Il y a beaucoup de choses que les humains accomplissent avec facilité et que les ordinateurs ne peuvent pas faire. Comprendre le langage parlé dans son intégralité sémantique et proxémique et abstraire son intentionnalité. Reconnaître un objet en l'explorant visuellement ou par le toucher et intégrer les informations sensorielles. Naviguer avec l'esprit dans le présent ou dans le passé et fantasmer sur l'avenir, ce sont des tâches faciles pour les humains. Malgré des décennies de recherches, il existe peu de bons algorithmes permettant à un ordinateur d'atteindre cette information, a dit Lindsay. Mais l'inverse est également vrai. Il y a beaucoup de choses que les ordinateurs peuvent faire et que l'esprit humain ne peut pas faire. Par exemple, traiter des calculs complexes en quelques secondes. La récente résurgence des modèles de circuits neuronaux artificiels dans les neurosciences computationnelles a ravivé l'idée d'une correspondance entre les modèles neuronaux synthétiques et l'activité neuronale réelle. Cette correspondance a été démontrée dans les cortex visuels des primates, où des réseaux neuronaux artificiels entraînés à la reconnaissance d'objets ont pu prédire l'activité neuronale réelle. Cette même approche a été appliquée avec succès pour capturer les propriétés des réponses neuronales dans de nombreuses autres zones du cerveau, y compris les zones auditives et motrices. La recherche sur l'IA éclaire certainement les fonctionnements du cerveau et de l'esprit humain et suscite de nombreuses craintes. Metzinger parle des suicides artificiels et propose des arguments en faveur d'un moratoire mondial sur la phénoménologie synthétique jusqu'en 2050. Un tel moratoire aurait pour but de limiter l'émergence d'une conscience artificielle dans les machines postbiotiques jusqu'à ce que nous disposions de critères éthiques valables pour comprendre ce qu'il appelle la phénoménologie synthétique négative. En bref, s'il existe une conscience phénoménologique dans un être sentient artificiel, le problème de la souffrance se pose. De nombreux philosophes et neuroscientifiques s'interrogent sur l'équation intelligence-conscience. L'une implique-t-elle l'autre? Et dans quelle mesure? Créer des machines intelligentes reviendrait-il à créer des êtres sentients et conscients, des humanoïdes vus à travers le principe de pathocentrisme qui nous conduit à prendre une position morale? Notre point de vue anthropocentrique apprend-il réellement la réalité de la conscience artificielle, qui pourrait être totalement différente de l'esprit humain, ou se contenter de l'assimiler au fonctionnement cérébral qui, selon nous, génère la conscience et la représentation de soi? Il n'y avait aucun doute que le dialogue suscité par l'appel au moratoire a amplifié à la fois le débat sur les modèles de conscience et le débat sur les indicateurs d'émergence de la conscience synthétique, qui limiterait la création des machines pensantes et donc l'utilisation des liens. Toutes les disciplines impliquées dans le dialogue IA, esprit sentient, conscience artificielle, s'accorde certainement en dire que l'esprit humain est plus complexe que n'importe quel algorithme actuellement développé et que la conception de l'IA devra au moins aborder les points suivants afin de relever les défis. 1. L'organisation de la mémoire humaine. Les circuits neuronaux artificiels pourront-ils prendre en compte, par exemple, la hiérarchie de la maturation des systèmes de mémoire, comme l'immaturité de l'hippocampe dans les trois premières années de la vie, avec la prévalence des circuits perceptifs et émotionnels déjà actifs dans la première année? Cette immaturité oriente le développement futur des mémoires épisodiques et crée en même temps l'empreinte émotionnelle à travers laquelle les systèmes de mémoire interagiront tout au long de la vie. D. La relation entre la conscience et l'inconscient, avec les différents degrés de conscience et les automatismes, qui permet d'aller au-delà du narratif et d'organiser des défenses et des structures qui, autrement, ne seraient que de l'ordre du descriptif. Ou encore, 3. Comment gérer le nœud des identifications primaires et secondaires constitutives de sa subjectivité et de sa transmission comme altérité? Sans ce nœud, tout être artificiel serait identique à l'autre ou à lui-même, selon le concepteur. Sans variance future. Également, 4. Si ces machines intelligentes survivent aux humains, la question de leur persistance au-delà de l'infinitude de l'existence humaine se poserait. Et enfin, 5. L'agence, l'agency, c'est-à-dire le marqueur de la conscience de soi, ce qui signifie la gestion des affaires, de la souffrance, la responsabilité de l'acte et donc la responsabilité éthique et morale. Donc, en ce qui concerne ce qui précède, l'IA n'est pas le cerveau et la conscience synthétique n'est pas un biotype. En autre terme, le fait d'être en présence de wetware matériel biologique ou de hardware matériel physique, c'est-à-dire d'être en présence d'un circuit neuronal ou d'un ensemble de portes en silicium, fait une différence. Ainsi, pour définir l'être sentient et l'émergence de la conscience, ce n'est pas seulement ce que fait le système, comment il traite l'information qui compte, mais aussi le substrat biologique auquel il appartient. Les discussions sur le degré de conscience et vigilance dans le règne animal nous ont appris à ne pas attribuer ces fonctions à ce qui répond à un stimulus, apprend quelque chose et maximise une récompense pour atteindre un but. A dit Anelisette, l'avènement des organoïdes cérébraux, ces mini-cerveaux cultivés en laboratoire à partir des cellules souches, devrait peut-être poser plus de problèmes de prévention éthique que l'intelligence artificielle et la virtualité. Entre le panpsychisme, la conscience partout, et le matérialisme éliminativiste, la conscience n'existe pas, c'est une large gamme d'options qui s'offre à nous et dont la portée future est scrutée par les scientifiques. Pour notre part, nous ne pouvons que continuer à souligner que nous pouvons percevoir, réagir et nous relier au monde parce qu'il fait partie de nous et que nous en faisons partie avec, à travers et grâce à notre corps, a dit Anelisette. La révolution copernicienne nous a donné l'univers. La révolution darwinienne, la famille du règne animal. Einstein nous a donné le temps. Freud, la profondeur de l'esprit humain. Que rencontrerons-nous dans l'avenir du virtuel? Peut-être une nouvelle révolution est-elle en cours. Le déplacement de l'esprit dans un alias qui perdure au-delà de la finitude du corps biologique. C'est une rencontre troublante avec le futur parce que nous sommes déjà des êtres virtuels, sensibles, dans un monde virtuel, mais toujours dotés d'un corps vulnérable, qui pour cette vulnérabilité, a dit Mann et Damasio, nécessite un appareil sensorimoteur qui contrôle son homéostasie, son adaptation, sa survie. Un système post-biotique ne reposant pas sur cette vulnérabilité, quel type d'intelligence pourra-t-il exprimer ?